Louis Pergaud, Le roman de Miro, Chien de chasse, partie 1, chapitre 6. Faut aller chercher le chien pour lui faire manger sa soupe, commanda Lisée en rentrant à la maison. Tu peux bien aller le guérir toi-même, Tarosse, répliqua la femme. Toujours aussi feignante, riposta de nouveau Lisée pour la piquer au vif. Blessée, en effet, la guélotte se redressa furibonde. « Fainéante, moi ? Tu devrais bien avoir honte, grand vaurien, de me lâcher des mauvaises raisons comme ça. Mais tout ce matin, je n'ai pas arrêté une minute de travailler. » « De la langue, compléta le chasseur. « Eh bien, j'y vais lui ouvrir à ta charogne, puisque, aussi bien, il n'y a plus qu'elle qui compte ici, et que moi, je ne suis plus rien que votre domestique à tous les deux. » Et elle passa dans la pièce voisine, communiquant avec la remise. Miro, par son bruit réveillé, l'oreille aux écoutes, reconnut le pas et ne bougea ni de sa paille. Dès que la porte fut ouverte, la guélotte leva les bras au ciel, prenant, bien qu'elle fût seule, tout l'univers à témoin. « Jésus, Marie, Joseph, si c'est permis, mais venez voir ce cochon-là, quel ménage il m'a fait !» S'il est possible d'imaginer. Oh mon Dieu, doux Jésus, qu'est-ce qu'on veut devenir ? Et elle criait, piaillait, gueulait, tempêtait tant que Lisée, qui ôtait ses souliers, accourut vivement en chaussettes, se demandant avec anxiété de quel abominable crime domestique son chien avait bien pu se rendre encore coupable. Miro, affalé sur le flanc, le museau inquiet, les yeux tout ronds de frayeur, le fouet battant, regardait du côté de la porte, craignant fort la raclée. Lisée arriva près de sa femme. Il vit, et aussitôt éclata de rire, d'un bon gros rire joyeux qui lui secouait le ventre et lui découvrait les chicots. « Ah ben, bon Dieu, celle-là, elle est bonne !» Quel sacré commerce a-t-il fait ? Comment diable a-t-il bien pu s'y prendre ? La couche de Miro était un capharnaüm magnifique. Parmi les brins de paille, outre les os et les bouts de bois qu'il avait rassemblés, se trouvait encore une queue de râteau, un vieux fond de culotte, un demi-double de poire, trois ou quatre débris de peau de lapin, un sabot, une pomme d'arrosoir, trois vieilles pantoufles, deux antiques balais, des paniers percés, un sac qui ne l'était pas moins, une paire de chaussettes, un cercle de tonneau et une valise vieille, très vieille, puisque c'était celle dont Lisée se servait quand il faisait son service militaire. Ben, m'est avis qu'il n'a pas perdu son temps, lui non plus. Mûri, charogne, canaille, chameau, rageait la guélotte. « Oh, mes peaux de lapin, mes trois peaux de lapin, il les a déchirées et bouffées, le cochon. Trois peaux de lapin qui valaient bien 6 sous. » « Où étaient-elles ?» questionna Lisée. « Elles étaient pendues à une solive du plafond. Faut pas essayer de me monter le cou. »« Je te dis que si, je te jure que si. Tiens, regarde ces clous. Il en reste encore des morceaux. La déchirure est toute fraîche. » Lisée dut bien se rendre à l'évidence. Miro avait décroché les peaux de lapin du plafond. Ça, c'était un peu fort. Comment avait-il bien pu s'y prendre ? Il est vrai qu'elle pendait un peu, mais tout de même. Et le chien, inquiet, battait toujours la paille avec sa queue. À la fin, Lisée se rendit compte de la façon dont il avait dû opérer. Miro avait sauté sur la table. Et de là, prenant son élan, il s'était précipité à l'assaut des peaux de lapin qu'il avait au passage accrochées avec sa gueule et entraînées dans sa chute. Combien de fois avait-il dû essayer avant de réussir ? Mystère. Mais les peaux de lapin l'avaient à coup sûr rudement tenté. Il aimera le poil, conclut le chasseur, gare aux lièvres. Allons, petit, viens manger. Il faut bien que jeunesse se passe. « Et mes peaux de lapin, clapit la guélotte ?»« Tes peaux de lapin, tes peaux de lapin, pour tes peaux de lapin, Une autre fois, tu iras les suspendre à la panne fêtière de la grange. Il n'ira probablement pas les y décrocher. La femme se tut. Toutefois, lorsque Miro passa devant elle, il endossa pour le prix des fameuses peaux de lapin un solide coup de sabot dans les côtes. Tout de même, ne se jugeant pas suffisamment vengée, elle ajouta « Il y restera dans sa saleté, avec ses cercles de tonneaux et ses vieux balais. Il y couchera. Ce n'est pas moi qui la lui nettoierai, sa niche, à ce dégoûtant-là. C'est bon, calma Lisée d'un ton conciliant. » Mais Miro jouait déjà avec Mitis, le jeune matou à qui il prenait les puces, tandis que le chat, renversé sous son gros mufle, s'agitait des quatre pattes pour le repousser, sans lui faire de mal, et se mettre enfin debout. Le maître les sépara en montrant au chien sa gamelle fumante. Avec bruit, Miro lapa sa soupe, une soupe claire, dont l'eau chaude était l'unique bouillon. Puis, non rassasié, vint tourner autour de la table, guettant les morceaux de pain, les débris de légumes, les coins de lard ou les os que le maître voudrait bien jeter. « Qu'est-ce qu'il a l'allure, ce goinfrelat !» ronchonna la guélotte. « Il n'est donc jamais content ?» Le chien l'évitait. Mais, par contre, enhardi par les petits mots d'amitié et les caresses du patron, il s'en venait doucement poser son museau sur la cuisse du Lisé, puis de la patte lui grattait le genou, en ayant l'air de dire « Eh, ne m'oublie pas !» Tant qu'on lui donna, il resta ainsi. Mais quand le braconnier eut cessé de partager avec lui et lui eut signifié en se frottant les mains devant son nez qu'il n'avait plus rien à attendre, il se remit à fureter par tous les coins de la pièce. Puis, finalement, s'affaissa sur le ventre et resta tranquille. On n'y prit pas garde, mais quand, à la fin du repas, étonné qu'il eût été si calme, la guélotte se leva pour débarrasser la table, elle constata que le chien, bavant de joie, la gueule tordue, les yeux mi-clos de volupté, tenait entre ses pattes de devant un soulier qu'il mastiquait consciencieusement. Elle jeta un cri de rage et se précipita sur lui. « Miséricorde ! Mes souliers du dimanche » râla-t-elle. La moitié de l'empeigne était percée comme une écumoire et de petits morceaux manquaient. « C'est les dents qui le tracassent !» essaya de dire Lisée pour l'excuser. Mais Miro hurlait déjà sous la trique dont la femme s'était armée pour le rosser, tandis que son mari, derrière qui il s'était réfugié, parant les coups comme il pouvait, essayait de calmer sa conjointe, très ennuyée pour excuser ce délit domestique qui se traduisait par un débit chez le cordonnier. À la fin tout de même, il se fâcha. Et il y eut entre les deux époux une scène terrible, au cours de laquelle la guélotte jura, entre autres choses, qu'elle s'en irait si ce salaud-là n'était pas fichu à la porte séance tenante. Devant l'attitude froide et le calme de Lisée, qui lui demanda goguenard où elle pourrait bien aller traîner ses viandes, elle en rabattit un peu de ses prétentions et exigea seulement comme punition que le chien fût emprisonné tout l'après-midi à la remise. Immédiatement, on reconduisit à la paille Miro, qui se remit à hurler de toutes ses forces, après avoir en vain flairé les portes. De guerre lasse, il se coucha jusqu'à l'instant où, mû par son farouche instinct de liberté, il entreprit une nouvelle et minutieuse inspection des ouvertures de sa prison. La remise donnait en arrière sur l'écurie. Dans la porte de communication, une chatière avec battant, refermant le trou, avait été ouverte. Mique, la chatte pour qui elle avait été faite, selon qu'elle entrait ou sortait, poussait le battant de la tête ou l'écartait de la patte afin de dégager l'ouverture par laquelle elle se glissait. Ce fut à cette planchette qui joignait moins bien que les encoignures et laissait filtrer des odeurs complexes que Miro, explorant et reniflant, s'arrêta. Le battant, poussé par son nez, remua. Le chien y mit la patte. Il se balança, s'écartant un peu, laissant entrevoir un coin de l'écurie. Spectacle nouveau! extraordinaire, mystérieux, partant plein d'attrait. Miro écarta autant qu'il put la planchette et engagea la tête dans le trou. Son émotion grandit, mais le battant, qui tendait toujours à se rabattre, lui pesait sur le cou et le gênait. Immédiatement, il le mordit à belles dents et tira de toutes ses forces. Comme il n'était suspendu à un clou rouillé que par une méchante ficelle, il céda bientôt, et le chien, fort surpris, alla tout d'un coup rouler sur son derrière. Il en fut légèrement estomaqué, mais ne s'arrêta pas longtemps à chercher les causes de cette catastrophe, l'ouverture libre le sollicitant trop vivement. Miro put voir l'écurie, avec les vaches alignées le long de la crèche où elles étaient attachées. Les vaches qui le regardaient de leurs grands yeux stupides, mais ne meuglèrent point. Et toutes sortes d'autres choses plus ou moins inconnues, dont les émanations puissantes l'intriguèrent extrêmement. Ah, passer par ce trou! Il essaya, engageant la tête, le cou et le haut du poitrail, mais il ne put aller plus loin. Cependant, la tentation était trop forte. Il passerait. Et, à grands coups de dents, il se mit à mordre, à ronger, à briser, afin d'élargir l'ouverture. Il rongea, rongea et rongea tant que, s'allongeant comme une couleuvre, il put enfin passer. Ah, quelles odeurs! Et comme il reniflait à narines dilatées ses parfums composites, fumier d'hiver, senteur de vache, fumée de volaille. Et qu'est-ce qui pouvait bien remuer là-bas, tout au fond, dans cette prison à claire-voie? Oh oh, ceci sentait meilleur encore que tout le reste. Une bande de lapins, ahuris, le regardaient fixement de leurs yeux ronds à reflets rouges. Prudemment, il avança le nez contre le treillis, étonné et soupçonneux, craignant peut-être une morsure de ces êtres bizarres qu'il ne connaissait point. Un vieux mâle, furieux sans doute de cet examen prolongé, frappa violemment d'une patte de derrière sur le sol. Cela claqua un coup sec, et Miro, qui eut peur, faisant un bond prodigieux en arrière, alla étourdiment buter contre les jambes d'une vache. Celle-ci, surprise et effrayée à son tour, lui décocha instantanément un coup de pied, et la frousse et la douleur arrachèrent au chien un aboi sonore. Alors, les lapins, épouvantés également, se mirent tous en cœur, et comme s'ils eussent été pris d'une subite folie, à sauter dans la cage et à tourner en rond, et à taper du pied, et à se bousculer et se mordre en poussant des piaillements suraigus. Devant une telle sarabande, oubliant sa souffrance, Miro réaccourut, puissamment intrigué, excité par tout ce tintouin dont il cherchait les causes, sautant d'un côté, sautant d'un autre, selon le mouvement de ces bêtes à longues oreilles, émerveillé peu à peu, donnant de la voix timidement d'abord, puis à pleine gorge, royalement heureux, l'œil brillant, arrondi, salivant de joie, prêt à sauter sur le premier qui sortirait, approchant de la cage, se reculant, faisant au gré de son caprice sauter, tourner et volter les lapins comme une bande de fous, tandis que les bœufs regardaient tout cela en meuglant. Les poules, qui étaient déjà rentrées, s'envolèrent du perchoir dans la crèche et sur le dos des vaches, ne sachant où se fourrer. Le coq, enflant les ailes, se mit à pousser des rococo, cocodé, furibard et Miro, qui ne savait plus auquel entendre ni courir, s'imaginant que tous ces êtres en bons camarades voulaient bien jouer avec lui, étaient heureux et sautaient et ressautaient et jappaient, comme s'il eût véritablement trois lièvres devant lui. Une poule qui lui tomba sur le derrière, dans l'affolement de la fuite, reçut un instinctif et prompt coup de mâchoire qui l'allongea net sur le carreau. Elle se mit à piauler, sans pouvoir se relever, tandis que toutes les autres bêtes de l'écurie, chacune en son langage, criait à qui mieux mieux. Tant de vacarme attira l'attention de la fémie, qui se hâta de prévenir sa voisine. Et toutes deux, accourues en passant par la remise, purent voir la porte rongée d'abord, puis, dans l'étable, Miro, l'œil en feu, les oreilles jointes, le fouet raide, frémissant de joie devant une cage où des lapins affolés tournaient et retournaient, tandis que les poules regardaient stupidement la géline mordue qui, allongeant le cou, poussait d'intermittents et rauques gloussements d'agonie. Miro comprit-il en voyant apparaître les femmes qu'il avait mal agi? Nul ne sait. En tout cas, il saisit certainement qu'il allait recevoir une danse. Aussi chercha-t-il à se faufiler entre les commères pour gagner la sortie. Mais ce fut en vain. La fémie de ses grands bras l'attrapa par le collier et le maintint, cependant que la guélotte, le poing fermé, tapait sur la bête à tour de bras d'abord, puis, se faisant mal aux mains, à grands coups de pied ensuite. Ce fait, elle prit une corde, vint attacher le coupable à la remise et retourna avec sa compagne pour se rendre compte des dégâts. Les lapins, essoufflés, effrayés, les yeux rouges, ventaient comme des asthmatiques. Et la poule, qui avait fini de glousser et de piauler, gisait raide sur les pavés. « T'auras bien de la chance si tes petits lapins ne crèvent pas, » conclut la fémie. « Pour quant aux poules, c'est la première, mais ce n'est pas la dernière. Une fois qu'ils y ont goûté... » « Mon Dieu! Mon Dieu !» se lamentait la guélotte. « Ma meilleure ouveuse !»« Écoute, » conseillait l'autre, « puisque ton sous-lot de mari ne veut pas te débarrasser de cette rosse, fais comme je t'ai dit. Donne-lui à manger l'éponge. Tu en seras vite délivré et personne ne saura rien. C'est ce qu'il y a de mieux à faire, » convint la paysanne. « Je vais lui en griller une tout de suite. » Et elles revinrent à la cuisine, portant la poule par les pattes. La guélotte chercha une éponge et posa son poêlon sur le feu. Mais au moment où elle jetait le beurre dedans pour le faire chauffer, Lisée rentra inopinément. « Tiens, tiens, tiens » s'exclama-t-il. « Il paraît qu'on fait des frichetis quand je ne suis pas là. On se soigne. Ça ne m'étonne plus que tu te portes bien. Qu'est-ce que vous êtes encore en train de fricoter, vous deux ?»« Regarde donc ce que ta rosse m'a fait, » répliqua sa femme. « Et tu iras voir la porte de ton écurie et la tête de mes lapins. « Dis-moi un peu ce que tu allais faire cuire. Il me semble que ça ne t'empêche pas de te soigner, sacrée gourmande, le mal que peut te faire mon chien. « Ah, fichtre, non, tout pour la gueule. « Eh bien, répondras-tu ? Tu dois être contente, tu en auras du fricot. Tu ne savais pas ce que tu voulais manger avec ton pain ? En voilà de la pitance. « Et toi, continuait-il, s'adressant à la grande fémie, « tu vas me faire le plaisir de foutre ton camp. Je commence à en avoir assez de tes histoires de brigands et de tes cancans de vieilles biques. » Là-dessus, furieux, Lisée alla détacher Miro, marmonnant en lui-même. « Si on la laissait sortir aussi, cette bête, elle ne ferait pas de sottises. » La guélotte, qui pour un empire n'aurait voulu avouer ce qu'elle allait faire cuire, ravala sa rage en silence. Puis, craignant que son homme ne se doutât de quelque chose, elle cacha l'éponge avec soin et, toujours sans mot dire, vaqua jusqu'au soir aux travaux du ménage. Elle n'exigea point que Miro fût conduit à la remise pour la nuit et le laissa dormir en paix dans la chambre du poêle. Pour elle, triste et sombre et comme résignée à son malheur, elle tricota des bas au coin du feu et ne monta se coucher à la chambre haute que bien après que Lisée se fut lui-même couchée et quand elle se fut assurée qu'il dormait profondément.